Espace Public, bonjour sur Couleur FM, Espace Public dédié aux élections départementales. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Pénavert et Mehdi Sarraoui, représentant chacun le Front de Gauche. Donc vous savez tous maintenant que ces élections départementales qu'on appelait cantonales auparavant ont été changées de différentes manières. Ce sont des binômes pour respecter la parité qui se présente pour chaque parti. Et il y a aussi beaucoup moins de cantons désormais en Isère qu'il y en avait avant, 28 contre 59, une réforme qui va dans le cadre de toutes les réformes territoriales qu'on connaît en ce moment. Donc des élections départementales qui, semble-t-il, ne passionnent pas les foules, mais quand même, on va pouvoir aborder tout un tas de sujets autour de cela avec Madame Pénavert et avec Monsieur Sarraoui. Bonjour à tous deux.
Bonjour.
Alors on va peut-être commencer par une petite séance de présentation. Madame Pénavert, vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes.
Oui, donc je suis la secrétaire de section du Parti communiste français de Bourgoin-Jallieu, adhérente au comité Nord-Isère Front de Gauche, et je dirais je fais partie aussi du conseil d'administration donc de cette association. Voilà, je travaille à la ville de Bourgoin-Jallieu au CIO, Centre d'information et d'orientation, dont je suis la directrice, ainsi que de l'antenne de Pont-de-Cherui.
Très bien. Et M. Sarraoui ?
Alors, moi, je suis étudiant en droit et salarié à temps partiel. Je suis habitant de Bourgoin, du quartier de Champfleury. Je suis adhérent au comité de Front Gauche Nord-Isère également, mais pas un parti politique. Et puis, j'ai été candidat sur la liste municipale d'André Borne. Au municipal de Bourgoin-Jallieu.
Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots tous les deux le sens, la motivation de cette candidature, de votre réunion, puis peut-être parler un petit peu de votre binôme, Monsieur Sarraoui. Vous avez 20 ans. C'est beau d'être militant à cet âge-là. Donc, on peut peut-être s'arrêter là-dessus. Déjà, le sens de cette candidature, de ce binôme.
Je pense que ça s'est fait naturellement. On a travaillé ensemble depuis maintenant plus d'un an et demi sur des questions locales. Et puis après, le feeling fait que le binôme s'est fait naturellement. Après, l'engagement vient, l'âge. Je pense que ça dépend de chacun. Quand on est confronté à plusieurs problèmes ou qu'on voit plusieurs thématiques à aborder, l'engagement vient avec. Issu d'un quartier populaire, aujourd'hui étudiant... On ressent quand même l'austérité et les politiques qui réduisent tout ce service public et toute cette aide et cette formation dans la nation.
Madame Pénavert.
Il parle de feeling, je pense qu'il a raison, puisque voilà, il y a quand même aussi ça dans la politique, hein, il faut que le courant passe. Et puis, Mehdi, c'est quelqu'un qui est très investi. Je trouve que pour la jeunesse, c'est un bel exemple. Hein, un jeune qui, à la fois... investi dans la politique et qui redonne un peu ses lettres d'or à la politique, parce que ce qui nous intéresse, c'est de justement parler débat d'idées, il parlait de défense des services publics, c'est pas de faire de la politique politicienne. Donc on s'est connu effectivement moins des municipales, et puis on en parlera peut-être dans la discussion, travailler ensemble sur la problématique de la poste dans son quartier de Champfleury. Voilà, donc on a appris à se connaître. Et voilà, il y a une problématique aussi locale par rapport aux jeunes. Peut-être qu'on en parlera dans le débat, notamment les départementales, c'est quelque chose d'important pour les jeunes, puisque ils financent les missions locales et que là, on aurait beaucoup de choses à dire sur le terrain.
Alors justement, le département, que pensez-vous en fait de ce redécoupage cantonal, de ce changement dans ces élections, et puis de ce que va pouvoir ou non faire ce conseil départemental dans les années à venir ?
Sur la réforme territoriale, nous, il y a plusieurs choses qui nous gênent. Il y a d'une part ce nouveau scrutin qui fait qu'il faut avoir 12,5% des inscrits pour pouvoir être au deuxième tour. Donc c'est 12% des inscrits, ça fait quand même des gros scores à faire.
Ça élimine les petits partis.
Voilà, élimine les petits partis. Donc on trouve que ce n'est pas démocratique et nous, ce qu'on propose, c'est la proportionnelle. La difficulté dans ces élections, c'est que la loi qu'on appelle la loi NOTRe va être votée 3 mois après les élections départementales, et que donc là actuellement on ne sait pas exactement quelles seront
les compétences et l'avenir diverses des départements.
Et donc particulièrement on est en tout cas opposé si la réforme se met en place comme elle est prévue à la suppression de la clause de compétence générale. Ça, c'est quelque chose de très clair pour nous, parce qu'on pense que voilà, le département doit être libre de pouvoir mettre en place des politiques publiques et des politiques pour soutenir notamment la jeunesse, les associations, l'emploi.
Et au-delà d'être attaché à la clause de compétence générale, on est d'abord attaché au département, parce que l'avenir même du département est incertain, alors qu'on va voter pour des départementales dans quelques jours. Là, on ne sait pas ce que va devenir le département. Donc s'il va être supprimé, s'il va être gardé, rien n'est sûr avec le gouvernement actuel.
Alors on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. J'ai l'impression que beaucoup de gens, de citoyens se posent la question. Alors on s'est promené un petit peu dans les rues de Bourgoin-Jallieu, on a posé des questions aux personnes qu'on croisait, et on va en écouter quelques-unes.
C'est important, comme tout devoir citoyen démocratique.
Je m'y suis pas intéressé.
Mais disons que c'est un peu compliqué parce que on nous a pas bien expliqué le changement entre les conseillers généraux qui ont changé de nom.
Je pense que la plupart des gens, si on leur pose la question, ils s'en moquent complètement parce qu'on les implique pas. Alors les compétences du conseil départemental, en fait, c'est un peu de budgéter tout ce qui se passe dans le département. C'est vraiment le social, les enfants, l'école, donner des budgets au niveau de la culture, de régler les problèmes de circulation, de route, d'infrastructure. L'importance de ces budgets, elle est primordiale. Quand on prend sa voiture et qu'on a une route qui est nickel et tout ça, ça change vraiment la vie du consommateur. Il y a un manque de communication là-dessus, ils ont changé de nom sans tambour ni trompette. C'est par stratégie politique, avec la nouvelle carte des régions là, qui s'est instaurée.
Voilà, alors quelques réactions, on n'en a pris que quelques-unes, on en diffusera d'autres dans les autres émissions, mais effectivement on sent qu'à la fois il y a un intérêt, il y a une connaissance peut-être plus ou moins lointaine de cette institution, il y a une conscience de son importance, et en même temps tout le monde dit mais on n'est pas au courant.
En même temps, on ne peut pas dire qu'on parle beaucoup dans les médias des élections départementales. Hein. Ça a commencé juste il y a quelques jours. Là. Par contre, moi, je suis bien d'accord avec la personne qui dit que c'est très important. Même si ce qu'elle englobe dans les élections départementales, les compétences du département sont peut-être pas exactement, mais c'est pas grave. L'idée est vraie, c'est que le département, c'est notre vie quotidienne. Hein. Que ça soit les collèges, le transport, l'aide aux personnes âgées, à la petite enfance, c'est vraiment notre vie quotidienne. Donc c'est très important, effectivement, de voter aux élections départementales.
Justement, alors le Bourgoin-Jallieu, le canton, enfin, et puis l'Isère en général, beaucoup de zones rurales, dans le cadre de cette réforme territoriale qui, d'un côté, va élargir de manière substantielle les régions, de l'autre côté, donner peut-être plus de pouvoir aux agglomérations, quelle importance finalement du conseil départemental dans ces zones rurales? Est-ce que justement on ne peut pas penser que, au lieu de cette idée qui consistait à les supprimer, ça ne va pas le renforcer dans ces territoires ruraux, en tout cas renforcer ses compétences? Et est-ce qu'on ne peut pas craindre justement pour tous ces territoires un petit peu écartés, oubliés, que la baisse généralisée des subventions soit une baisse de la vie en général?
Il est certain qu'au niveau des départements ruraux, enfin des zones rurales, le projet qui était au départ celui de Manuel Valls de supprimer les départements posait problème, parce que le département est quand même garant de l'équité territoriale. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait réagir les maires, enfin, les élus locaux au niveau des zones rurales. Donc je pense que le département, je pense que c'est un lieu de proximité, et qui est un bon lieu de proximité pour mettre en place les politiques d'aide aux personnes, quel que soit l'âge de leur vie.
Et surtout un lieu de démocratie, parce que plus on éloigne les instances démocratiques, plus on se sent seul finalement, et plus on est désintéressé de la politique, comme ça ne nous touche pas, on ne peut pas vraiment agir. Là, le département, c'est quelque chose qui est abouti, qui nous aide au quotidien, et qui est vraiment important, parce que là, si on passe à la région, et en plus de ça, une grande région maintenant qui fusionne avec l'Auvergne, ça commence à faire loin. Et où on se tourne quand on habite dans une petite commune comme Mérier, Nivola, on est trop loin de la réalité politique.
Et alors malgré tout, la baisse des financements touche tous les niveaux des collectivités territoriales, y compris le département, y compris les communes, les communautés d'agglomération. Comment on va s'en sortir justement dans tous ces territoires ?
Ah ben là, c'est un réel problème, ce que vous évoquez. C'est pour ça que, ce que je vous disais tout à l'heure, hors micro, nous, on sera des élus anti-austérité et des élus de combat, parce qu'effectivement, la baisse des dotations de l'État sont considérables. Donc sur le département de l'Isère, pour les années cumulées 2014-2015, c'est une baisse de plus de 30 millions d'euros. Donc c'est pas rien.
On sait que ces baisses coupent généralement passent par la culture, le social et tout ce qui finalement nous touche et nous aide à aller voir plus loin que chez nous. Et donc c'est quelque chose de primordial que... On se bat pour ces budgets-là.
D'autant que précisément, les départements gèrent toute l'aide sociale, finalement.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
RSA, l'aide à personnes âgées pour l'autonomie, puis à l'aide aux handicapés.
Donc là, il y a effectivement cette baisse des dotations de l'État. Il y a également le fait que l'État a transféré donc toutes ces aides individuelles. On a dit le RSA, l'APA, etc. Et que l'État n'a pas compensé intégralement ce transfert. Donc le delta entre ce qui a été transféré et ce que paye le département actuellement est de 196 millions. Ça s'ajoute en plus aux dotations aux baisses de dotations. Donc la difficulté, elle est réelle, on ne va pas la nier.
Alors justement, en dehors des petits micro-trottoirs que nous avons réalisés, on a rencontré aussi quelques acteurs associatifs. Je vous propose d'écouter un de leurs témoignages.
Oui, toujours confiance et on y croit, on essaie d'y croire. Et peut-être que les listes pour lesquelles on vote depuis un long moment et qui ne sont jamais en tête de pouvoir, donc arriveront peut-être, puisque c'est un des seuls moyens qui nous reste pour affirmer effectivement que voilà ce qu'on voudrait. Ce que je crains, c'est qu'on ait un pouvoir qui veuille nous faire absolument des réductions d'impôts à la mort moelle-neuve, et alors que plus si je gagne de l'argent, je veux bien en redonner, au contraire, si je sais que c'est repartagé justement pour la collectivité. Ah oui, il agit surtout notre quotidien, notamment sur le quotidien social, sur le quotidien culturel pour une partie, sur le quotidien scolaire, d'un point de vue des collèges, tout, il intervient sur toute notre vie quotidienne. Plus ça va, plus l'État se décharge justement sur les collectivités locales, et donc plus ça va, plus il aura de poids sur notre vie au quotidien, quoi, et sur notre facilité de transport, sur notre manière d'apprendre, sur notre capacité à pouvoir rencontrer l'autre. Il sera toujours présent et de plus en plus.
Bon alors, vous voyez, je crois qu'on l'a choisi spécifiquement pour vous, ce témoignage.
Je crois aussi.
Qu'en pensez-vous ?
Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit cette personne, parce qu'effectivement, les différents domaines que cette personne a cités, c'est bien des domaines qui concernent le département. Les associations culturelles, effectivement, je pense des fois l'exemple de l'expérimentation Demos qu'il y a eu sur la ville de Bourgoin-Jallieu. C'est donc la possibilité de donner à des jeunes qui sont éloignés de la musique une initiation musicale à travers un orchestre. Et c'est vrai que le département était un petit peu en dehors de ses compétences obligatoires en faisant ça, mais en même temps, quelle richesse pour ces jeunes de pouvoir découvrir des instruments. Donc là, si imaginons que le département ne garde plus sa clause de compétences générales, c'est quelque chose qui disparaîtrait. Nous, on est effectivement la liste dont il parle. Qui souhaiteront maintenir toutes ces...
Il parle aussi de deux choses importantes. Premièrement, la politique politicienne, comme on voit, une fois qu'on arrive au pouvoir, de vouloir satisfaire tout le monde, baisser les impôts, faire des grandes réformes populistes pour rester et pour être aimé. Donc maintenant, on fait de la politique pour sa cote de popularité. Et deuxièmement, il parle aussi de la solidarité. Il a parlé des impôts et que ça posait pas de problème de redonner au public quand on a pris du public. Et donc là, on se retrouve dans le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que malgré que certaines listes parlent de fraude sociale, on peut parler aussi de fraude fiscale, et des plus gros qui s'enrichissent sur la tête des plus petits, qui est aujourd'hui un problème dans notre système.
Bien, alors vous parliez de musique, justement, on arrive au milieu de cette émission. La tradition veut qu'on vous fasse choisir la pause musicale. Et Mehdi Sarraoui, c'est vous qui avez choisi le morceau. Vous pouvez nous l'annoncer, puis vous nous expliquerez après pourquoi.
Alors le morceau, c'est « La terre-mère n'est pas à ventre » de Kenny Arcana.
Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sort, couvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort,
te détruisent pour du papier,
souiller tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe, car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres, nous on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier, ressentent ta souffrance. Aujourd'hui sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombé dans la démence, écharmé par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect. Se sont appropriés ta chair depuis des millénaires. Pour t'avoir se font la guerre, Pachamama. Tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe. Le poing levé pour le combat, Pachamama. C'est nos racines qui sont en toi. Tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Ton vase rempli à rapport, ils t'ont condamné à mort et nous ont condamné à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Moderne ne veut pas voir. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire. Les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente tes brevets, chacune de tes espèces. Terre mère, patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs. Exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs. Torturés et meurtris dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. Que ton règne revienne, que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force reprenne ses droits, qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol. Ton recouvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. On t'empoisonnait ton air, souillait tes océans, tes rivières et tes mers, et on vampirisait ton sang. Ils ont fracassé tes saisons, dérégler ton climat, nous ont coupé l'horizon avec du béton dégueulasse. Ils ont exterminé ta faune, racheté ta flore, sous-estimé ta force pour nous condamner à mort. Pachamama.
Kenny Arcana, Terre Mère n'est pas à vendre. On est toujours sur Couleur FM avec Frédéric Pénavert et Mehdi Sarraoui. Mehdi Sarraoui, Kenny Arcana, mais ça représente beaucoup pour vous. Vous avez 20 ans. Kenny, c'est une jeune rappeuse et très 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 engagée.
Ça représente d'abord l'engagement de la jeunesse, parce qu'on dit souvent que la jeunesse ne s'intéresse plus, la jeunesse ne veut plus entendre parler de toutes ces problématiques que nous rencontrons, mais non, je pense que non, en fait, c'est qu'on aborde juste d'une manière différente et qu'il faut encore des artistes engagés pour crier un peu ce côté révolutionnaire qu'il peut y avoir dans la génération plus jeune. Donc révolution sociale, écologique, et toutes ces valeurs auxquelles on s'attache.
Elle croit encore à la politique, Kenny Arcana ?
Elle croit en une politique humaniste, mais pas dans notre système. C'est révolutionnaire, donc c'est pas, il n'y a pas de système et il n'y a pas de parti politique.
Ça ne vous empêche pas de vous engager, vous ?
Ça ne m'empêche pas de m'engager, parce que l'engagement, c'est quelque chose de vital, quand même, de se battre pour des causes qui nous sont chères, et puis de savoir qu'on peut agir encore sur les décisions qui sont prises, malgré ce qu'on peut penser maintenant que nos votes ne servent plus à rien, que de toute façon on est banané un peu. Et donc non, il faut reprendre l'espoir et il faut se battre. Si on y va, nous, avec les mêmes valeurs que nous défendons dès l'arrivée jusqu'à la fin, là on peut reprendre confiance à la politique.
Alors justement, donc vous êtes le front de gauche. Aujourd'hui, tous les commentateurs s'accordent pour dire que la poussée du Front National commence à devenir très 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 inquiétante. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ?
Nous, notre combat, c'est un combat entre contre la droite et l'extrême droite. Hein. C'est bien évidemment, ça a toujours en tout cas été le combat des communistes et là aussi du Front de Gauche. Moi, je trouve que quand même, on a les médias ont quand même beaucoup mis en avant les candidats du Front National, Marine Le Pen. Enfin, moi qui écoute beaucoup la radio, je trouve que vraiment on en a entendu beaucoup parler et voilà, on entend beaucoup moins Pierre Laurent et les communistes. Voilà, donc ça pose souci quand même. Je pense que cette hyper médiatisation. Après, moi, ce que je dirais aux gens, c'est de faire attention à leur vote. Ce sont des gens le Front National qui développent des idées xénophobes et c'est pas parce que leur discours est un petit peu plus soft qu'avant.
Et au-delà de la xénophobie, c'est pas un discours qui est, malgré ce qu'on peut croire, c'est pas un discours vraiment social de la part des gérants d'un parti qui s'établit sur une dynastie de personnes très riches. C'est pas un parti social, c'est pas un parti écologique, c'est un parti qui se replie sur soi-même, qui veut sortir de l'Europe malgré, voilà, l'Europe on traverse beaucoup de choses, mais qui veut se replier sur tout ça. Et si aujourd'hui on sort de l'Union Européenne, ça peut être fatal pour les agriculteurs. Je sais que maintenant elle se replie sur les agriculteurs, comme je viens d'entendre là, aux questions au gouvernement de Marion Maréchal Le Pen, qui appelait à la sauvegarde des agriculteurs. Et non, si on sort de l'Europe, il n'y a plus de la PAC, donc l'aide aux agriculteurs, et là, c'est l'asphyxie pour l'agriculture.
Après, maintenant, ils ont des élus aussi, hein, le Front National. Donc moi, j'invite les gens à suivre un petit peu comment leurs élus les représentent.
C'est ça.
L'élu Front National pour le canton de Bourgogne-Jallieu, c'est M. Arlot, qui est également élu conseiller municipal, qui n'a pas ouvert la bouche depuis qu'il est élu en conseil municipal. Sur les grands dossiers de Bourgogne-Jallieu, que ce soit la Poste ou l'agence postale de Champaret, aucune position. Enfin, voilà. Donc là, si vraiment c'était des élus proches du peuple, il y a de quoi, je crois, sur la ville de Bourgogne-Jallieu, réagir et défendre réellement les intérêts de la population.
Mais ils ne doivent pas vraiment avoir l'habitude de parler parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de faire campagne non plus, comme on vote pour une seule personne. Quand on vote Front National, on vote Marine Le Pen. Donc il n'y a vraiment pas besoin de parler. Le travail se fait de soi-même. C'est un travail de fond.
Et alors, question évidente, naturellement, vous n'avez pas peur que la division à gauche pendant ces départementales fasse leur jeu. Pour rappel, il y a effectivement la liste autour du Parti Socialiste, votre liste Front de Gauche, et puis aussi la liste Rassemblement des Citoyens. Alors là aussi, je vais vous demander une petite explication pour que tout le monde comprenne bien. Rassemblement des Citoyens qui comprend le Parti de Gauche, qui évidemment fait... on a l'habitude qu'il fasse partie du Front de Gauche.
Oui, c'est très juste ce que vous dites là. Le Parti de Gauche fait partie du Front de Gauche. Hein. On a lancé une campagne, je dirais, du Front de Gauche au niveau de la France, hein, sur tout le territoire, une campagne de rassemblement. Donc dans, je dirais, bon nombre de cantons, le Front de Gauche, associé à Europe Écologie Les Verts ou à des citoyens, se présente des candidats communs. Il y a une particularité dans l'Isère qui est que le rassemblement a été très difficile avec avec le PG et avec Europe et l'Écologie Les Verts.
Et puis il y a Nouvelle Donne aussi.
Et puis il y a un nouveau parti qui s'appelle Nouvelle Donne. Et donc, à l'instar un peu de ce qui s'est passé à Grenoble, c'est-à-dire que la ville de Grenoble a été gagnée par une alliance citoyenne, encore que ce mot citoyen commence à m'exaspérer un peu parce qu'on est tous des citoyens. Hein.
Voilà. A priori, si on est là, c'est
voilà.
Qu'on l'a.
Voilà. Donc, des gens, dirais, non d'un quartier, associatif, Europe Écologie Les Verts. Et le PG, et ce rassemblement, ils l'ont fait sans le Parti communiste. Donc moi, je dis très clairement qu'il y a en Isère une volonté de faire ce rassemblement sans les communistes, qui est pourtant la composante la plus importante en termes à la fois de résultats électoraux, mais aussi de nombre de militants sur le terrain.
Et sur le canton.
Et que donc, sur le canton, c'est une pratique politicienne qui a été faite. Vraiment, je le déplore, parce que c'est pas comme ça qu'on va gagner face, justement, au Front National. Hein. On parlait de ce péril. Voilà, il y a les personnes qui sont aux côtés de Georges Auspice sont des personnes qui sont parachutées sur le canton. Hein, son binôme, c'est une Europe Écologie Les Verts, je pense, de Grenoble. Enfin bon, voilà, en tout cas, c'est des gens que j'ai jamais vus sur le terrain, ni dans les luttes à Grenoble, à Bourgogne-Jallieu.
Voilà. Je crois que M. Auspice nous l'a expliqué par le manque effectivement de militants sur le
ça
terrain.
Ça montre bien que le Rassemblement citoyen, s'il manque de militants, c'est pas très citoyen, comme c'est pas proche.
Voilà.
C'est parce que ça commence.
Ensuite, avec ils avaient des militants, mais qui n'ont pas voulu déclarer leur candidature, hein, puisque quand même les Verts ont quelques militants sur Bourgogne, enfin, on les connaît. Avec le Parti Socialiste, la difficulté, elle est sur la politique nationale. C'est-à-dire que ces élections, la nouveauté aussi, c'est qu'on va voter dans tous les cantons ensemble. Avant, c'était un renouvellement par moitié. Donc, effectivement, il va y avoir un test national. il n'est pas possible pour nous de participer, d'être dans un binôme avec les socialistes, dans le sens où ce qui est mis en place comme politique au niveau national actuellement, c'est une politique d'austérité. Et on parlait des collectivités territoriales, c'est même une politique d'austérité qu'on n'a jamais vue avant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on peut dire que Sarkozy, l'UMP avaient gelé les dotations pour les collectivités. Là, elles sont en diminution. Elles sont en diminution de façon notable. Et ça entraîne beaucoup de difficultés, des difficultés économiques. Donc on commence à ressentir d'ailleurs sur notre territoire. Si on a le temps de parler un petit peu des jeunes et puis de ce qui m'intéresse aussi au temps professionnel.
Il nous reste quelques minutes,
voilà,
allez-y.
On a par exemple sur la ville de Bourgogne-Jallieu une baisse très importante du nombre de contrats d'apprentissage. Le CFA du bâtiment va fermer très certainement une ou deux classes à la rentrée prochaine. Donc tout ça c'est très lié, c'est-à-dire les collectivités, si elles ne peuvent plus investir, alors qu'elles investissent plus de 70%, l'investissement à plus de 70% c'est de l'investissement public, on a un rétrécissement économique dans toutes les sphères de notre société. Donc nous on est en désaccord complet avec cette austérité. Comme disait Mehdi tout à l'heure, de l'argent il y en a. L'équivalent des 50 milliards qui sont demandés d'efforts par le gouvernement, on les trouve dans la fraude fiscale. Et à cela s'ajoutent les 60 milliards aussi d'évasion. Donc il n'y a même pas eu d'inflexion au niveau du pouvoir pour cette politique pour essayer de changer les choses. Donc pour nous, il n'est pas possible de partir dès le premier tour avec les socialistes. Je m'en suis clairement exprimé auprès de mes camarades socialistes.
Partir au premier tour, mais arriver au deuxième ?
Au deuxième, on verra. On verra qui est là, au deuxième tour. Je ne sais pas si beaucoup de gens sont capables de le dire. En tout cas, on n'a jamais fait la politique du pire, hein, ça c'est clair. Mais,
C'est entendu. Alors, avant de terminer, peut-être, imaginons que le 29 mars, le Front de Gauche sorte gagnant de ces élections. Non, ne souriez pas, imaginons-le. Et quels seraient vos chantiers principaux, les priorités que vous mettriez ?
Les priorités, c'est évidemment d'accentuer l'aide aux personnes. Les grosses difficultés que ressentent les gens, il y a les personnes âgées. On a une offre de services qui est nettement insuffisante. Actuellement, par exemple, sur le Nord-Isère, pour une personne âgée, pour avoir une place en EHPAD, l'attente est de plus de 18 mois. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, hein, puisqu'on a tous, à un moment donné, des parents qui vieillissent. Et qu'est-ce qu'on en fait, comment ils poursuivent leur vie. Donc il y a tout ce côté social. Hein,
et public, surtout. Social et public, parce qu'on a des propositions de ces services-là qui sont vraiment importants pour la population, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Et on nous propose des services privés, mais personne ne peut payer ses services privés, à moins qu'on soit d'une classe aisée, et je crois que ce n'est pas le cas à Bourgoin, que la majorité de la population soit d'une classe aisée, Bourgoin ou ailleurs, sur le canton.
Il y a toute l'aide à apporter aussi aux personnes en insertion. Je pense que là, il faut arrêter les discours démagogiques. Hein. J'ai lu les tracts de M. Chriqui qui parle d'assistanat. C'est facile de parler d'assistanat quand on est à des niveaux de salaire élevés.
Et surtout quand on est jeune et qu'on n'a même pas commencé à aller dans la vie et à trouver du boulot. Donc si on met des barrières comme ça, on ne peut pas être dans l'assistanat tout de suite. C'est un choix, alors qu'on ne connaît pas le reste.
Voilà. Et l'assistanat, je pense que ça n'existe pas, si ce n'est dans les idées de la droite. Il faut savoir que plus de 50% des gens ne réclament pas leur RSA. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les gens sont dans cette idée-là. Par contre, il faut vraiment développer l'insertion, effectivement, pour ces personnes-là. Et développer l'insertion et accompagner ces personnes vers l'insertion, ça demande vraiment du travail, d'avoir des éducateurs, d'avoir des personnes qui sont disponibles.
Privilégier aussi cette formation et cet accompagnement dans les milieux ruraux où les jeunes sont beaucoup délaissés, dans les milieux ruraux et dans les quartiers populaires aussi. Développer toutes ces structures qui puissent informer les jeunes de leurs droits et les faire avancer dans la vie, les accompagner dans tout ce qui est difficile, l'emploi, le logement. Parce qu'il faut savoir qu'on rencontre aussi beaucoup de problématiques de logement quand on est jeune.
Voilà, et donc pour justement aider les jeunes sur tout le territoire, c'est les missions qui sont données aux missions locales. Et là, je pense qu'il faut vraiment accentuer les aides parce que ils sont pour certaines tranches d'âge, les missions locales sont démunies, n'ont pas les moyens d'aider réellement les jeunes. Et réellement, là, il faut, je pense, accentuer les aides, parce que l'émission locale maille tout le territoire. Donc,
Et au-delà des aides, je voudrais rajouter, parce que ça m'est cher aussi, accentuer les politiques de protection de l'environnement et donc favoriser les constructions moins énergivores, toutes ces nouvelles énergies renouvelables qu'on peut mettre en place sur le territoire, parce qu'on a un territoire riche. Tout ça favorisé et accentué pour le bien-être de tous.
Oui, c'était bien le sens de la chanson que vous nous avez passée tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Pénavert. Merci beaucoup, Monsieur Sarraoui, d'être venu nous voir.
Merci à vous.